Alléluia, on va partager la parole de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler d'un sujet particulier qui est le rôle du pasteur. On va parler du rôle du pasteur dans une église et pourquoi Dieu a voulu le ministère pastoral. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises et qui vraiment n'ont aucune idée
de ce qu'est
l'église locale,
le ministère pastoral.
Certains, ça va, ils se donnent au Seigneur et on a l'impression qu'il y a une compréhension qui se fait au travers des enseignements, etc. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette appréhension, cette compréhension spirituelle, ni de pourquoi Dieu a voulu des pasteurs, des églises locales, et quel est le rôle du pasteur, là où il commence, là où il s'arrête. Donc je ne vais pas me prêcher moi-même, parce que certains pourraient penser ça, mais je vais vous expliquer selon les Écritures ce que la Bible dit. D'abord, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a des royaumes humains, mais il y a aussi des royaumes spirituels. Il y a le royaume de Satan, nous le savons, le royaume de
ténèbres,
dont nous sommes sortis, gloire à Dieu. Mais il y a aussi, bien sûr, le royaume de Dieu dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et comme tout royaume, il y a des lois qui régissent le royaume de Dieu. Ce sont des lois spirituelles. On parle de la foi est une loi spirituelle. On parle du Saint-Esprit, la façon dont l'esprit agit. Il agit au travers de lois spirituelles. Il y a toutes sortes de lois spirituelles dans le royaume de Dieu qui nous sont révélées dans la parole de Dieu. Et il y a aussi des lois du gouvernement divin pour l'église de Dieu. Et évidemment, on ne peut pas parler du ministère pastoral sans comprendre qu'il y a un gouvernement divin qui régit le royaume de Dieu, et Dieu va déléguer une certaine autorité spirituelle au travers des ministères pour que son royaume puisse s'étendre. Dans Ephésiens 4, nous avons une première révélation sur ça, qui est vraiment la révélation de l'église et du royaume de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils avaient une théocratie, c'est-à-dire que Dieu régnait au travers d'un roi sur un pays, sur une seule nation qui était géographiquement réunie sur les territoires d'Israël. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. L'Église de Dieu, le royaume de Dieu, les membres du royaume de Dieu, les enfants de Dieu, sont répandus sur toute la terre entière. Et ils se réunissent dans des endroits géographiques qu'on appelle les églises locales. Et au travers de cela, l'église en général, avec un grand E, l'église universelle, c'est-à-dire l'ensemble des croyants nés de nouveau, doit suivre un certain nombre de serviteurs qui ont une délégation spirituelle de la part de Dieu.
Ephésiens 4:11
nous dit: c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ici on a 5 ministères: le ministère apostolique, et être un apôtre, c'est pas un titre, Je vois malheureusement une certaine perversion, une certaine utilisation des titres actuellement dans le corps de Christ qui vraiment font du mal. C'est triste de voir ces choses-là. Être apôtre, c'est pas un titre. Être apôtre, c'est une ordonnance divine sur une personne. Un apôtre est rempli de puissance et il va dans des endroits où Christ n'a jamais été nommé. Il fonde une église faisant de l'évangélisation avec puissance. Paul parle des signes de l'apôtre, des guérisons, des miracles. Il y a énormément de puissance quand un apôtre est là. Les gens sont touchés en masse. Une église va naître. Il s'occupe de cette église un petit peu. Après, il nomme des anciens. Ce ne sont pas des pasteurs, des anciens, parce qu'il les nomme. Certains de ces anciens deviennent des pasteurs après, mais par ordonnance divine, selon Dieu, la volonté de Dieu. Et ensuite, il va dans un autre endroit et il recommence. C'est exactement le rôle de l'apôtre Paul que vous voyez dans les Actes des Apôtres. Ensuite, la Bible nous dit, deuxième ministère, nous parle du prophète. Le prophète, lui, il parle sous l'inspiration divine. Il reçoit un certain nombre de révélations, mais ce n'est pas une machine à prophétiser non plus.
Ce n'est
pas une machine à vision.
Ce
n'est pas quelqu'un qu'on vient consulter parce que nous avons le Saint-Esprit, mais c'est quelqu'un qui va exercer son ministère là où Dieu l'envoie. Et évidemment, Dieu l'utilise au travers de la prédication, de l'enseignement vers ce que Dieu veut faire. Mais aussi un prophète, évidemment, parce qu'il a une certaine onction puissante prophétique, amène un certain nombre de révélations, parle des choses sur les gens sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais là encore, non pas selon sa volonté, c'est selon la volonté du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui dit, moi je vais te donner une révélation, viens, je vais te dire ce que le Seigneur te dit, c'est faux. Parce qu'un prophète ne fait pas les choses à volonté. Il doit être soumis au Saint-Esprit. Ensuite, la Bible continue et nous donne après évangéliste. L'évangéliste est quelqu'un qui n'a pas d'église non plus. Il fait partie d'une église, mais il n'a pas d'église. Il n'est pas un pasteur, un évangéliste. Un évangéliste, lui, il circule. Et il a des signes qui accompagnent son ministère. Il prêche l'évangile et il y a aussi des guérisons, des délivrances, il y a des miracles qui se produisent. Vous lirez par exemple dans Acte 8, Philippe l'évangéliste était à Samarie. Et quand il va à Samarie, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se produire, mais il
n'est
pas là pour démarrer une église. Il fait son rapport aux apôtres à Jérusalem, mais c'est à Jérusalem qu'il renvoie des gens pour s'occuper, pour démarrer une église. Ensuite, il est parlé du ministère pastoral. Le pasteur, c'est un berger, on va en parler, c'est l'objet entre autres de mon sermon ce matin.
Donc,
je vais vous expliquer d'ici quelques minutes le rôle du pasteur. Et on parle aussi du docteur, de l'enseignant, si vous préférez. L'enseignant, il explique la parole de Dieu. Il est là pour amener la doctrine dans l'église, pour expliquer. Vous savez, la différence entre prêcher et enseigner, c'est très simple. Prêcher, c'est déclarer des vérités en vue de voir une motivation chez les gens pour qu'ils prennent une décision. C'est la parole qui est annoncée, qui est proclamée. Enseigner, c'est expliquer la parole de Dieu. Le rôle d'un
enseignant, c'est d'expliquer la parole de Dieu.
Alors
ici, on s'arrête au pasteur. Le mot pasteur, c'est simplement, ça veut simplement dire berger dans le grec. Donc ça, c'est une première définition que nous avons. Mais il y a aussi d'autres définitions. On peut voir dans la parole de Dieu. Il y a une définition que on trouve comme mot, c'est le mot évêque.
Harikindi basobanura aho bavuga ngo
évêque 1 Timothée 3.
Ni muri Timoteo wa mbere gatatu.
Et c'est pas la seule référence. Je sais que quand on parle du mot évêque, tout de suite, on fait référence à certains types
d'églises.
Mais ça, ce sont les traditions qui nous ont amenés à prendre ce mot en mettant ça sur telle ou telle église. Quand la parole de Dieu a été écrite au 1er siècle,
eh
bien, le mot évêque avait une signification très claire.
1
Timothée 3, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité, il faut donc que l'évêque soit irréprochable,
etc.
Alors en fait, l'évêque dans le Nouveau Testament, c'est la, ça veut dire surveillant d'abord. Quelqu'un qui veille sur. Quelqu'un qui veille sur. Et le pasteur est appelé à être un berger. Qui veille sur. Sur quoi? Bien sûr, sur un troupeau. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut savoir que l'évêque c'est le pasteur? Regardons dans Acte 20. Nous aurons la réponse. On reprendra ces passages, donc ces passages vont nous servir. Acte 20, verset 28. Je vais vous faire travailler dans la parole ce matin parce que je veux que vous saisissiez certaines choses. Certains, vous connaissez ces vérités, mais d'autres, vous les ignorez totalement.
Je
vais vous aider un petit peu à comprendre certaines choses parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien le rôle du pasteur et le rôle de l'église locale d'une manière générale. Alors, au verset 28, c'est Paul d'ailleurs qui va partir de la ville d'Éphèse, de toute une région dans laquelle il y a eu un impact immense au travers de son ministère qui s'appelle l'Asie Mineure, c'est l'ouest de la Turquie. Et en fait, dans cet endroit, Paul devait partir. Et il va dire au revoir. Ayant convoqué, ayant demandé à tous ceux qui avaient des responsabilités dans le ministère de venir, il a fait une dernière réunion. Et au verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou surveillant si vous préférez, pour faire paître. Paître, comme un berger, l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc autour de ce mot pasteur, il y a plusieurs définitions. Le premier étant berger. Deuxième étant surveillant, veiller sûr. Maintenant, regardons 1 Corinthiens 12. Ce sont des passages que vous devez connaître. C'est très important que vous ayez la saine doctrine. On va voir aussi que c'est un des rôles du pasteur de vous enseigner la saine doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent dans le ministère. Et ce sont des boîtes de conserve vides avec des belles étiquettes dessus. Parce qu'il faut comprendre que le ministère,
c'est
une ordonnance divine. J'entends vraiment des histoires qui parfois me font pleurer de tristesse.
Ou
qui parfois sont ridicules. Encore cette semaine, j'entendais une histoire là-dessus. Quelqu'un qui avait réussi à avoir 20 000 dollars, un financement, et qui cherche un pasteur pour démarrer une église. C'est lamentable. Et comment il a eu ses 20 000 dollars? Il a été prendre les photos d'une autre église parce qu'il n'avait rien à l'époque pour montrer qu'il avait déjà du monde pour aller demander les
20 000
dollars. Mais les gens qui avaient donné les 20 000 dollars, ils voulaient venir voir au Burundi la grande œuvre qui n'existait pas. Je vous assure, il y a vraiment des choses graves. Des gens qui se font détourner parce qu'ils ne comprennent pas le rôle de leur pasteur.
1
Corinthiens 12, à partir du verset 28, Paul va reprendre un peu ce qu'il dit dans Éphésiens, mais ça va être un peu sous un autre angle, en tout cas pour le ministère pastoral. Rappelez-vous d'Éphésiens 4:11 qui nous disait: il a fait des dons aux hommes, hein, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ici, le même apôtre, Paul écrit, et il dit: Dieu a établi. Donc là encore, a établi, c'est Dieu qui établit. Tout le monde dit: Dieu a établi.
Dieu a établi.
En Kirundi.
Imana yabanje gushiraho.
C'est Dieu qui établit, c'est pas l'homme qui établit. Les ministères ne sont pas établis par l'homme. Même si on fait une école biblique, on a un joli diplôme. Ça fait pas de vous un pasteur. Ça fait pas de quelqu'un un évangéliste. Ou un enseignant ou quoi que ce soit d'autre. Un diplôme est un diplôme. Ce qui va faire qu'une personne va être établie par Dieu, c'est que cette personne va avoir un appel, d'accord, mais va aussi recevoir une onction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne va passer par un temps spécial. Et là encore, je tiens à être clair, il y a des gens qui disent que Dieu leur parle alors qu'ils vivent dans le désordre. Mets ta vie en ordre et après tu pourras écouter Dieu. On ne peut pas écouter Dieu quand on est dans le désordre. La seule chose qu'on entend dans son cœur, c'est repens-toi, repens-toi quand tu es dans le désordre.
Tu n'entends
rien d'autre que Dieu, parce que Dieu n'est pas stupide. Il ne peut pas mettre une onction sur quelqu'un pour qu'il démarre dans le ministère alors que cette personne est dans le désordre ou qu'elle vit dans le péché. Il faut être clair, frères et sœurs. Dieu ne peut pas approuver quelque chose qui n'est pas saint. Amen.
Amen.
Je n'entends pas beaucoup ce matin. Amen.
Amen.
Dieu appelle.
Iman,
mais il y a un temps
où
on se prépare et un temps où il nous établit. Moi personnellement, j'ai reçu mon appel un an après avoir été sauvé. Et j'ai reçu ma première onction presque 12 ans après. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle pour nous montrer les grandes lignes de notre vie. Et il y a un temps où il nous établit dans le ministère. Et beaucoup de gens font cette erreur de soit précéder Dieu ou soit ce sont des gros farceurs. Et c'est triste à dire, mais vivement qu'il y ait du nettoyage, hein. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont complètement confus avec ces histoires. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, et après Paul va un peu entre guillemets, changer l'ordre. Il ne va pas mettre dans le même ordre qu'il met dans Ephésiens.
Troisièmement,
des docteurs.
Donc,
des enseignants, oui. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues.
Et
ici, la plupart des commentateurs savent une chose. Que même si le ministère pastoral n'est pas dit, et quatrièmement ou cinquièmement, le pasteur, là où Paul a dit le don de gouverner, ceux qui ont le don de gouverner, fait référence au ministère pastoral. Donc c'est clair que le pasteur a une délégation pour diriger, pour gouverner une église locale. L'église locale ne peut pas être gouvernée par un autre ministère que le ministère pastoral. Le ministère pastoral est celui ou ceux, quand il y a plusieurs pasteurs dans une église comme c'est le cas ici, qui gouverne l'église. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner? Ça fait penser au gouvernail d'un bateau. Le gouvernail d'un bateau, c'est cette petite planche qui tourne et qui permet de donner la direction pour qu'un bateau aille dans tel endroit ou tel autre endroit. Gouverner, ça veut dire prendre les décisions. Gouverner, ça veut dire faire appliquer les décisions. Et Dieu nous a délégué de par une onction, un don divin, de quoi diriger l'église locale. Paul, dans 1 Corinthiens 4, va nous donner aussi une certaine définition du ministère en général, et le ministère pastoral étant inclus dans le ministère. Donc il va nous parler d'un certain nombre de choses. Il nous dit ainsi donc qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
Baravuga ku murongo wa mbere ngo umuntu natwiyumvira yuko turi abasuku ba Kristo n'ababwiriza b'amabanga y'Imana kandi ababwiriza babagomba ko baboneka ko arabizikirwa.
Donc, qu'est-ce que Dieu dit ici dans sa parole? Eh bien, il dit simplement que le ministère, c'est administrer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous avons, en tant que pasteur, et les autres ministères aussi, l'administration des mystères du royaume de Dieu. Administration, ça veut dire la gestion. La gestion dans les affaires courantes et les affaires générales de l'église, de l'église locale sur laquelle on est pasteur. Nous avons cette administration à faire parce que c'est une ordonnance divine. Vous savez, il y a parfois des gens qui se disent pasteur. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je continuerai à vous la raconter. Et un jour, on m'a dit, oui, tiens, il y a le pasteur Intel, etc. Je salue ce cher frère. Et je dis, ah, vous êtes pasteur. Et il me dit, oui. Et je lui demande, quelle est votre église? Et il me dit, j'en ai pas encore. Mais je prie pour ça. J'en aurai une. Non, un pasteur a une église. Un pasteur a une église. Un berger a un troupeau. Un berger a un troupeau, sinon c'est pas un berger. Alors regardez un peu ce principe du gouvernement divin. On va voir à la fin de l'épître aux Hébreux à propos de la délégation. Parce que quand on parle de berger, bien sûr, il y en a un qui est le berger suprême.
Kuko tuvuze ibyo mwongere hari umwe ari umwongere asumba abandi bungere bose.
Évidemment c'est Christ.
Onawe ni Kristo Yesu.
Nous savons que Jésus dit je suis le bon berger.
Turazi ko yasavuga ati je ndu mwongere mwiza.
Il est le bon berger.
Niwe mwongere mwiza.
Et ici à la fin de l'épître aux Hébreux.
Kandi hano kumera ikicete
cy'abayo. Dernier verset chapitre 13.
Kumurongo wa nyuma ikicete cy'a 13 kumurongo wa 22.
Hébreux 13:20 nous dit que le Dieu de paix qui est ramené d'entre les morts, le grand berger ou le souverain berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend apte, etc., etc.
Baravuga ngo Imana nyamahoro imwe yakuru umwami wacu Yesu mubapfuye ari we mwongere mukuru w'intama imukuje amaraso n'ibindi n'ibindi umwongere mukuru w'intama.
Donc Jésus est le grand berger des brebis et il a donné par ordonnance divine
bihwanye n'ivyimana igomba
au pasteur, au ministère pastoral, des troupeaux locaux. Donc, nous, en tant que pasteurs, nous sommes soumis au grand berger qui est unique, des brebis, et il nous délègue une partie de son troupeau que nous devons paître, dont nous devons nous occuper en tant que pasteurs. Nous avons une délégation. Une délégation divine, une procuration divine de pouvoir nous occuper d'un troupeau local, d'une église locale, de brebis qui viennent et qui se reconnaissent dans une église locale sous l'autorité d'un pasteur. Et ça, il faut que vous le compreniez d'abord. L'église n'est pas un supermarché.
Dimitri.
Hein, on rentre, on achète ce qu'on veut, on paye, on s'en va. L'église de Dieu n'est pas ça, frère. Malheureusement, je vois beaucoup de gens qui ont ce genre d'attitude. Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est une incompréhension sur ce qu'est l'église locale et le ministère pastoral. La deuxième, c'est peut-être un désir de dire moi, je suis une brebis et je peux courir un peu à droite, à gauche. Et ça, c'est une grave erreur. Une brebis appartient à une bergerie. Une brebis appartient à une bergerie. Et cette bergerie, elle a un ou plusieurs bergers. Et ce berger a un certain rôle qui est biblique, un rôle qu'il doit exercer et un rôle aussi qu'il ne doit pas dépasser. C'est là où je veux en venir. Pour vous expliquer, je n'aurai pas le temps de tout faire dans ce premier sermon, je continuerai dans le deuxième sermon, mais là je veux déjà avancer. Donc Dieu délègue une partie de son autorité spirituelle, de son gouvernement, sur la terre, au ministère pastoral. Donc ça, c'est absolument fondamental d'abord à comprendre.
Si
vous ne comprenez pas ces choses, il vous faut vraiment prier pour avoir cette révélation de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont très curieux. J'entendais l'exemple d'une sœur, là, il y a quelque temps, qui était ici dans cette église. Je
ne
sais pas, elle a bien dû faire 2 ans. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, elle était connue, on s'occupait d'elle. Puis je pose la question il y a quelque temps.
Mais
en fait, la sœur Intel, on la voit plus. Ah oui, elle a dit à une autre sœur qu'elle était partie dans une autre église. Alors je me suis dit, mais quand même, c'était comme quelqu'un de connu, quelqu'un qu'on connaissait à l'église, avec lequel on n'a pas eu de problème. Elle n'a pas eu de problème avec l'église. Mais d'un seul coup, elle disparaît. Et on apprend par personne interposée. Ça, c'est des gens qui n'ont aucune révélation sur ce qu'est un pasteur et ce qu'est une église locale. Il y a un aspect que je veux développer et que je veux créer en vous au travers de cet enseignement de la parole de Dieu. De comprendre ce que c'est que le rôle du ministère pastoral
et
le gouvernement divin. niveau de l'Église, nous ne sommes pas gérés par un gouvernement humain. Nous avons bien sûr l'obligation dans chaque pays où se trouvent les églises locales d'avoir des associations, des toutes sortes de structures juridiques, de rendre des rapports économiques, etc. Tout ça, c'est clair et c'est normal. Mais nous ne dépendons pas de nomination du gouvernement, par exemple, ou d'une organisation qui pourrait dire, voilà, on nomme tel pasteur ici, ou un tel, il est nommé tel pasteur ou tel pasteur. Sinon, on revient à ce qui s'est passé et ce qui a fait dévier l'Église à partir du 4e siècle après Jésus-Christ. Le ministère est d'ordonnance divine. Le ministère est une délégation spirituelle, d'autorité spirituelle sur des hommes et des femmes que Dieu appelle, que Dieu loue, pour diverses raisons qui nous sont données dans Éphésiens 4. On va regarder encore ensemble. Éphésiens 4. Oh, il y en a plus d'un ici, vous avez besoin de ces enseignements. Ce sont des enseignements que je fais quand je fais le cours au niveau 3 sur le ministère. Mais il y a pas mal de chrétiens qui ont besoin au moins des bases de cet enseignement. Parce que vraiment, je m'aperçois qu'il faut qu'on construise une église solide, stable, qui comprend les choses de Dieu. Verset 11, on a vu Paul nomme les 5 ministères. Ensuite, il dit pourquoi Dieu a mis les ministères dans l'église. Au verset 12, il dit pour le perfectionnement ou l'équipement des saints. Pour l'œuvre du ministère. C'est quoi l'œuvre du ministère? C'est réaliser ce que Jésus nous a dit de faire. La grande mission que Christ nous a laissée. La grande mission, c'est quoi? C'est ce qu'il dit à la fin des évangiles. D'aller prêcher l'évangile à toute la création et à faire des nations des disciples. Non pas des convertis. Non pas des faux convertis. Non pas des conversions émotionnelles, mais faire des disciples, des gens qui suivent le Seigneur, qui s'attachent au Seigneur, et dont certains, un jour, seront eux-mêmes dans le ministère et auront cette délégation d'autorité spirituelle de la part de Dieu. Donc l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, c'est à la fois horizontale et à la fois verticale. Horizontal, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de gens qui soient touchés par l'évangile. Donc que l'œuvre de Dieu grossisse. Et vertical, c'est cet aspect de croissance spirituelle dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre le rôle des ministères. Il dit jusqu'à temps que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. C'est une foi commune. De la connaissance du Fils de Dieu. Pour que nous puissions mieux le connaître. C'est bien d'avoir reçu Jésus comme sauveur personnel, mais ce n'est pas suffisant. Ça nous assure le ciel. Mais il y a une croissance que Dieu veut. Une connaissance. À l'état d'homme fait, c'est-à-dire à l'état d'homme adulte. À la stature mature, parfaite de
Christ.
Donc ici, il nous dit la raison d'être des ministères que Dieu établit dans l'Église d'une manière générale. Que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, que ce soit les évangélistes, que ce soit les pasteurs, que ce soit les enseignants, tous ces ministères doivent converger vers ce que Ephésiens nous dit. Le ministère pastoral étant le ministère le plus répandu dans le corps de
Christ.
Il y a beaucoup plus de pasteurs que d'autres ministères d'une manière générale dans le corps de Christ.
Et
verset 14, il nous explique pourquoi on doit grandir. Pourquoi est-ce que ces ministères doivent être en opération dans l'église? Il nous dit ainsi, nous ne serons plus des enfants, des bébés spirituels, flottants et entraînés à tout vent de doctrine jouée par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre
séductrice.
Ici, Paul nous explique qu'il y a des dangers. Quand quelqu'un reçoit
Christ,
il a besoin d'être dans une bergerie.
Il
peut recevoir Christ au travers d'un des ministères, ça peut être au travers de l'évangéliste,
même
des fois au travers d'un docteur qui fait un enseignement sur la nouvelle naissance et la personne reçoit le Seigneur. Quel que soit le ministère, ou en dehors des cinq ministères, une personne peut recevoir Jésus, un témoignage personnel. Mais si la personne n'est pas équipée, si la personne n'est pas nourrie correctement, si ce chrétien, ce bébé spirituel ne grandit pas, alors il est en danger. Les brebis qui ne sont pas intégrées dans des églises locales, où il n'y a pas un berger établi par le Seigneur, et je dis bien un berger établi par le Seigneur, ce sont des brebis qui courent un certain danger.
Ça,
la Bible est claire là-dessus. Une brebis qui est dans la nature, c'est une brebis qui court un certain danger. Premier danger, c'est les fausses doctrines. Deuxième danger, c'est les manipulations. Et nous verrons là aussi le rôle du pasteur par rapport aux brebis. On va y venir, mais d'abord je veux continuer à poser des fondations. Venir à Christ, c'est une chose. S'intégrer dans une église locale en étant soumis à l'autorité pastorale, c'est une autre chose. En ayant la révélation de ce qu'est l'église locale et de ce qu'est le ministère pastoral, c'est une autre chose. Si une brebis n'a pas cela dans sa vie, c'est une brebis qui est en danger, en danger de fausses doctrines, en danger de manipulation. Il y a eu quelqu'un comme ça il y a à peu près 6 mois qui vraiment commençait à s'épanouir dans le Seigneur, et cette personne s'est fait proposer un poste par quelqu'un, parce que cette personne avait quelques difficultés financières. C'était quelqu'un qu'on avait aidé ici dans cette église d'ailleurs, et cette personne, on lui a proposé un poste, et c'est un autre chrétien qui lui a proposé ça. Et je mettrai chrétien presque entre guillemets, parce que vu la façon dont il a agi, ça m'a choqué.
Et
ce patron qui a proposé ce poste à cette dame lui a dit, bon, à partir de maintenant, tu dois venir prier dans mon église si tu veux garder le job. Ça s'appelle de la tromperie, de la manipulation.
Vous
imaginez un peu. On vous propose un job. Et on vous dit, attention, tu dois aller dans l'église où je vais moi. Là, j'ai un problème avec ça. Ce genre de manipulation, c'est dangereux.
Et
il y a beaucoup de gens qui se font manipuler. Comme ça. Et ça va mal se terminer, cette histoire.
On sait que
ça va très mal se terminer.
Mais il n'y
a pas moyen.
Hein.
Ce sont des gens qui se laissent tromper.
Tromper.
Je vous donne quelques exemples comme ça parce que je veux éveiller des choses chez vous. Je veux que vous compreniez que en tant que pasteur, nous avons un certain rôle. Et vous, en tant que brebis, vous devez avoir une certaine compréhension. Une compréhension. Alors, le premier rôle du pasteur, c'est d'être un berger. C'est un des premiers titres que nous avons vus. Et évidemment, nous devons, nous, en tant que pasteurs, étant soumis au grand berger des brebis, prendre l'exemple de
Christ.
Et dans le psaume 23, il y a déjà vraiment un certain nombre de critères d'un berger. C'est ce qu'on va commencer à étudier ce matin, le pasteur en tant que berger. Et ici, dans ce psaume 23, il y a un certain nombre de critères du pasteur qu'on va étudier parce que c'est quelque chose qui est très important que vous compreniez. Ici, David écrit et dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je vivrai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. »
ngo uhoraho no mwungere wanje sinzokena amvyagiza mucanya cy'ubwatsi butotahaye andongorera hafi iruhande y'amazi adasuma aremesha umutima wanje anyobora mu nzira zo kugororoka kubwizina giwe mbere naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu sinzogira ico kibintinya kukuri kumwe nanje inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza untegurira meza mu maso y'abansi banje wansiza amavuta mu mutwe igikombe canje kirasesekaye n'ukuri byiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose y'ukubaho kwanje
Donc un des grands rôles du ministère pastoral, c'est d'être un berger envers les brebis. Et ici, une des caractéristiques d'un berger, au verset 2, c'est de faire reposer les brebis, enfin, les amener dans de verts pâturages. Et là, ça nous parle de la nourriture. De la nourriture spirituelle et de la responsabilité du ministère concernant la nourriture spirituelle. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous savez, dans un troupeau, on peut avoir des brebis qui sont bien grasses et des brebis qui sont toutes maigres. Dans un troupeau, on peut avoir des brebis qui sont malades ou des brebis qui sont en danger. Dans un troupeau, on peut avoir des loups qui s'introduisent aussi. Et une des premières choses qu'un pasteur doit s'assurer, c'est qu'il nourrisse bien ses brebis au niveau de la parole de Dieu. Ça, c'est absolument fondamental. Quand quelqu'un est pasteur et berger, son souci, c'est de pouvoir nourrir ses brebis. Que les brebis puissent trouver de verts pâturages, c'est-à-dire des pâturages gras qui leur permettent de grandir spirituellement, d'être bien nourris spirituellement. Et ça, bien sûr, c'est la doctrine. Si vous lisez la première épître à Timothée et la deuxième à Timothée, ainsi que c'est la Tite, ce qu'on appelle les épîtres, entre autres pastorales,
Tito, urabona yuko ari ibintu by'ubupastori bigisha cyane.
Je vous rappelle que ces épîtres sont adressées aux serviteurs de Dieu principalement.
Urabona yuko ari ivyete byandikwa cyane abakozi b'Imana.
Et que 1 Timothée 2 Timothée et Tite.
Timoteo wa mbere wa kabiri na Tito.
Nous donne bien sûr énormément de conseils spirituels.
Tubona harimo cyane inyigisho impanuro mu buryo bw'impuhwe.
Concernant ceux qui exercent un service envers Dieu d'une manière générale.
Kubihwanya n'abantu bakora igikorwa cy'Imana mu buryo rusange.
Parle pas mal du ministère pastoral.
Baravuga cyane by'igikorwa cy'Imana mu
pastori. Sous la forme donc de l'expression évêque.
Bakavuga cyane cyane bavuga ngo ni évêque cyangwa umuyobozi.
Aussi on parle du ministère d'aide, entre autres des diacres.
Bakavuga n'abantu bafasha abadiakoni n'abandi.
Donc de ceux qui servent pas forcément d'une responsabilité spirituelle.
Bende majambo abantu bafasha mugabo kumbere badafite n'uruhara mu buryo bw'impwemu.
Ou ceux qui servent dans une certaine responsabilité spirituelle.
Cyangwa abantu bafasha bafite uruhara mu buryo bw'impwemu rutonya.
Et qui doivent évidemment être sous la responsabilité du pasteur.
Mugabo kandi bateza kuba bari munsi y'uburongozi bw'umupastori.
Et il y a plein d'exhortations dans ces trois épîtres.
Biratomoye bramana kayo ko hari guhanura cyane kuri mwe muri bibice.
Concernant la saine doctrine.
Bihwanye n'inyigisho nziza.
Et Paul exhorte beaucoup Timothée et Tite.
Maze Paul agatera intege cyane Timoteo na Tito.
À ne pas donner n'importe quoi.
Ababwira ati nimugatanga ibyo aribyo byose.
Mais à donner une parole.
Ahubwo ngo batange ijambo.
Qui permet de nourrir.
Bishoboza
bishobora kugabura. Qui permet de corriger, etc., etc.
Bayobora neza bakosora bagatwara neza intama zabo.
Donc par exemple, on va regarder au chapitre 4 de 2 Timothée.
Turabe Timoteo wa kabiri gice cya kane.
2 Timothée chapitre 4.
Timoteo wa kabiri gice cya kane.
Paul va exhorter Timothée.
Paulo aratera intege Timoteo.
Qui était lui-même pasteur de l'église d'Éphèse à l'époque.
Timoteo nawe yari umwungere wa yari umwungere w'ishengero d'Éphèse cyo gihe.
Qui était apparemment aussi évangéliste.
Kandi biravyumenga yari n'umuvugabutumwa.
Et Paul va encourager ce serviteur de Dieu.
Paulo aratera intege umukozi w'Imana.
Et lui montrer son rôle vis-à-vis de la parole. Au chapitre 4, verset 1, il dit « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec leur démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables.
Baravuga ngo ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocira kwiteka abazoba bariho n'abazoba bapfuye kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe no bwami bwiwe uvuga ijambo ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha kuko igihe kizoza batazokwemera kumva kwigisha kuzima ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje ni kwifuza kwabo kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma.
Regardons dans 1 Timothée, ce coup-ci 4, verset 6.
On l'a mis à l'ambre, quand même, on l'a mis à
1 Timothée 4, 6.
Timothée 1, quand même, on l'a mis à l'ambre.
On retrouve ce même principe à propos de la doctrine. Paul dit en exposant cela aux frères, toujours en parlant à Timothée, qui était serviteur de Dieu, je vous le rappelle, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc Paul exhorte Timothée d'abord
à être
dans la bonne doctrine, la saine doctrine, pour qu'il puisse l'exposer aux autres. Donc là aussi, le rôle d'un pasteur, c'est de se nourrir lui-même pour venir nourrir les brebis avec la saine doctrine. Moi, personnellement, si je sens que l'Église n'a pas saisi un message, je repars frustré de l'Église. Je me dis, mais non, apparemment, ils n'ont pas saisi. Personnellement, et je sais que c'est la même chose pour le pasteur Isabelle, nous cherchons le Seigneur pour recevoir un message de Dieu, pour pouvoir le transmettre à l'Église. On n'est pas là en train de se dire, en arrivant à l'Église, bon, aujourd'hui... Jean, non, peut-être pas. Non, Jean, ils ont déjà entendu la semaine dernière. Éphésiens, c'est pas mal. Ouais. Allez, on commence par Éphésiens 2.
Muno musi Yohana bega hari ba Yohana bagahe muno musi katurara. Hama ngore katusome muri Efeso. Oya urumva suko tubigira turabaza gusenga tukabaza Imana.
Non, on prie.
Turasenga.
Et on attend qu'à ce que le Seigneur nous dirige.
Maze twarindira yuko Imana ivuganya natwe ikitubura.
Des fois ça peut être pendant la semaine où on sent qu'il y a un thème ou un autre qu'il faut qu'on partage avec l'église.
Hari gabikoreka hagati mundu kuva muri wowe hari ikintu osangira nishengero kwa Mungu.
Des fois ça peut être le samedi.
Changa bigakoreka kwa gatandatu nyene.
Mais il y a toujours un temps où nous en tant que bergers.
Ariko hamari gi twebwe nkabungere.
Nous cherchons Seigneur.
Turondera Imana.
Et nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux?
Parce
que notre souci, notre responsabilité,
c'est
de pouvoir donner de verts pâturages.
De pâturages
à l'église de Dieu. C'est une des responsabilités. Vous savez, la Bible prévient sérieusement des gens qui racontent n'importe quoi. Qui se permettent de s'adresser devant des chrétiens et leur raconter des trucs bizarres.
Bakababwira ibintu bitari byo bidatomoye inyigisho zitari zo inyigisho mbi Imana izobakarira cyane abo bantu.
Il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont comme ça, qui s'initient docteur ou pasteur et qui donnent une nourriture qui est mauvaise.
Bagatangura gutanga inyigisho zitari nziza.
Vous savez, on peut empoisonner les chrétiens
avec
de la mauvaise nourriture spirituelle. On peut empoisonner des brebis avec
ça.
On peut les rendre malades très sérieusement. On peut les faire pousser tordus.
On leur donne
de la mauvaise nourriture. Et c'est une des grandes responsabilités du ministère pastoral. Paul dira à Timothée dans 2 Timothée
2:15.
Dans 2 Timothée
2:15.
Paul va dire quelque chose à Timothée qui est une sévère recommandation. Il va lui dire: efforce-toi. Dans d'autres traductions, c'est étudie toi-même. C'est-à-dire, puisse toi-même dans les connaissances de la parole. De te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Donc c'est clair qu'un serviteur de Dieu qui prend la parole,
c'est
pas pour faire des amen et des alléluia pendant la moitié de son sermon. Ou raconter des histoires qui sont fausses ou qui sont tordues ou qui ne sont pas actuelles pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance. Mais il est évident qu'à partir du moment où nous donnons la parole, cette parole doit être consistante. Cette parole doit nourrir vos esprits. Doit vous encourager. Doit vous fortifier. Doit faire ce que Paul a dit dans 2 Timothée 3:16. Où il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, de Timothée 3:16, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Donc à partir du moment où un serviteur de Dieu donne la parole, cette parole doit être éprouvée. Elle doit être utile pour enseigner, elle doit enseigner les gens. Elle doit convaincre. Amener une conviction. Parce que c'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit provoquer quelque chose. Parce que quand on a une conviction, cette conviction, ça amène la foi. Et la foi doit nous amener à agir. Et à pratiquer ce que Dieu veut nous pratiquer. Afin de pratiquer ce que la parole de Dieu dit, la justice.
C'est-à-dire
faire des actions qui sont conformes à ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ça que cette parole doit faire. Elle doit aussi redresser. Quand il y a des choses où on sent que ça dévie quelque part, elle doit éduquer. Pourquoi ? Pour que l'homme de Dieu soit adapté, préparé, pour toute bonne œuvre. La parole que nous devons nous vous donner est une parole que vous devez recevoir qui vous permet de faire des choses conformes à la volonté de Dieu, de marcher en conformité avec la parole de Dieu, de marcher selon le Seigneur. Et c'est une des responsabilités du pasteur de vous nourrir correctement, de vous donner la bonne nourriture. Si un pasteur donne du poison à son église, c'est que ce n'est pas un bon berger. Un berger qui fait attention à ses brebis doit faire attention à la nourriture spirituelle que ses brebis ont. Et moi, j'ai pas de problème. Parfois, il y a des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent: pasteur, qu'est-ce que tu penses de tel livre ou de tel enseignement que j'entends là?
Bon,
par rapport à cela, j'ai entendu ça ou je pense ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai selon les Écritures?
Et
ça, c'est toujours bon d'avoir des brebis qui se posent des questions et qui disent: ça, apparemment, j'ai un doute là-dessus. Je
ne
veux pas gober ça n'importe comment. Parce que c'est important que vous soyez protégés de ce côté-là. Correctement nourri. Vous savez, on peut prendre de la bonne nourriture et une fois prendre de la mauvaise nourriture, et on peut en avoir des séquelles. Là. On voit les fruits. Quand un chrétien commence à le voir s'épanouir, parce qu'il pratique la parole de Dieu, on dit: celui-ci, vraiment, il reçoit, il pratique, et on sent qu'il grossit bien, comme on dit si bien ici. Qu'il est en bonne santé spirituelle. Et ça, c'est un des rôles du ministère pastoral, de pouvoir vous nourrir correctement de la sainte doctrine, selon sur laquelle nous sommes. Vous, en tant que chrétien, vous venez dans l'église, il y a une partie où vous donnez au Seigneur votre louange, votre adoration, il y a une partie où nous donnons nos dîmes et nos offrandes, mais il y a une partie où on reçoit la parole, où on exerce le ministère de la parole envers vous. Et bien sûr, il y a le ministère de l'esprit, on parlera du ministère de l'esprit, bien sûr,
là,
surtout je m'intéresse à la parole, la saine doctrine, la doctrine qui est là pour nous faire progresser et qui ne nous amène pas dans des trucs bizarres. Donc ça, c'est un des premiers rôles du berger, du pasteur en tant que berger, c'est d'amener ses brebis dans de la bonne nourriture, de leur donner de la bonne nourriture spirituelle. On continuera la prochaine fois, on va prier un moment avant de se quitter. La semaine prochaine, je continuerai sur le rôle du pasteur.